Ah bah là, on va pouvoir en faire des crêpes.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
J'aime pas Noël. Hein? Gna 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 gna. Et puis moi, tous ces repas, ça me...
Oh, bah c'est ballot. On est invité chez ma sœur. Repas de fête totalement bio.
Ah bon?
Je leur dis que tu viens pas alors.
Non, non, bah, je fais un effort.
Pour les fêtes, partageons du bonheur en savourant le meilleur de ce que nous proposent nos producteurs bio français. Pour vous, pour la planète, pour de belles et bio fêtes.
Ayons le bio réflexe, chérie.
Et si j'apportais une petite bûche bio, hein?
Mm-hmm. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ceci est un message de l'Agence Bio.
Parlons prévention. Certaines personnes sont plus à risque d'être touchées par les virus de l'hiver, comme la grippe et la Covid-19. Si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes atteint de pathologies chroniques telles que le diabète ou une maladie cardiaque, vous êtes éligible à la vaccination grippe et Covid-19. Parlez-en à votre professionnel de santé. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer. On en parle.
Vous projetez de poser des panneaux solaires chez vous pour produire votre propre électricité ? On en parle tout à l'heure avec Martin, qui a fait appel à EDF Solutions Solaires.
RTL. RTL, il est 13h. Toutes les infos qui comptent, c'est avec vous Thibaut Hue. Bonjour Thibaut.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. François Bayrou est un... François Bayrou est un peu à part dans le spectre politique. Les mots de Louis Hélio, c'était à l'instant dans le grand jury RTL Public Sénat avec Le Figaro M6. Le premier vice-président du Rassemblement National reconnaît au nouveau Premier ministre quelques qualités.
Je pense que François Bayrou, par rapport à M. Barnier, a cette qualité-là, qu'il écoute, qu'il dialogue, même si nous ne partageons à 95% aucune de ses idées, il n'en demeure pas moins que c'est un républicain et un démocrate. Il a d'ailleurs mis en adéquation ce qu'il pensait avec ses actes, lui, puisqu'au moment de la présidentielle, il a apporté son parrainage symbolique à Marine Le Pen pour qu'elle puisse avoir ses parrainages. Sur ces considérations-là, je pense qu'il est quelqu'un qui, dans le spectre politique, est un peu à part.
Louis Hélio, invité du grand jury RTL Public Sénat avec Le Figaro M6, interview à réécouter en longueur sur RTL.fr et l'application RTL. Le tueur du Nord est toujours en garde à vue ce matin. L'homme qui a avoué avoir tué 5 personnes hier après-midi s'est rendu à la gendarmerie. Il a notamment abattu un homme de 29 ans devant chez lui à Vormouth. La ville est sidérée. Écoutez le maire David Kalkoen, joint par Romaric Caillé pour RTL.
L'auteur des faits s'est présenté chez la victime. La victime est sortie de chez elle et il a tiré dessus à multiples reprises devant sa conjointe, les enfants qui étaient dans la maison et après il est parti. Et puis par là, la famille qui comprend pas, qui se demande ce qui s'est passé, pourquoi lui, que des interrogations parce que il y avait pas de passif. Bah ça ressemble à un règlement de compte. Hein. A priori, la conjointe ne le connaissait pas, mais là il y a plusieurs coups de feu sur la même personne. C'est de l'acharnement, c'est une expédition punitive.
Le maire de Vormouth, David Kalkoen, joint par Romaric Caillé pour RTL. Le pape François poursuit sa visite en Corse à Ajaccio. Depuis la cathédrale, il a exprimé son soutien aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Selon un bilan provisoire, 14 personnes sont mortes après le passage de la tempête qui a balayé l'archipel. Du jamais vu depuis 90 ans, il faudra sans doute des jours pour affiner le bilan humain, a estimé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui se rendra à Mayotte lundi. Les sports, le football, 15e journée de Ligue 1, une soirée événement, le Paris Saint-Germain affronte Lyon. Le choc sera à suivre sur RTL. RTL Foot coup d'envoi à 20h45 et avant ça Montpellier-Nice à 16h et puis un multiplex à 17h avec notamment Brest-Nantes. Vous entendrez d'ailleurs dans quelques instants le capitaine du Stade brestois Brandon Chardonnay au micro de Mohamed Bouafsi dans Focus Dimanche. La météo en demi-teinte aujourd'hui, du soleil sur le quart sud-ouest, de la grisaille dans le centre, le sud-ouest et la moitié nord. Cet après-midi et jusqu'à ce soir, les éclaircies reviennent sur toute la façade atlantique. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Vincennes. Départ à 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 9, le 8, l'As, le 14, le 4, le 3 et l'outsider RTL, le 8, Brambling. RTL, il est 13h03. Tout de suite, Focus Dimanche avec Mohamed Bouafsi.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL,
avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. C'est un fléau qui touche de plus en plus de médecins. Les agressions sur les docteurs ont augmenté de 23% en 2023. Mohamed Oulmeki est médecin depuis 27 ans, il a été violemment agressé fin novembre dernier. Il témoigne sur RTL. C'est la fin de plus de 24 ans de tyrannie et de dictature en Syrie. Près de 50 000 personnes ont été tuées par l'ancien dirigeant Bachar al-Assad. Des centaines de milliers de personnes ont fui pour se sauver. C'est le cas de la militante des droits de l'homme syrienne Bouchra al-Zoubi. Elle est mon invitée. C'est la fin du Dolirum ou de l'Actifed en vente libre. Tous ces médicaments qui vous soignent en cas de rhume, selon plusieurs médecins, ils sont dangereux pour la santé. Le docteur Jérôme Marty vous explique les dangers de ces médicaments. Toute l'Europe connaît désormais le Stade Brestois après une nouvelle victoire en Champions League contre le PSV Eindhoven. Les Bretons sont qualifiés pour les 16e de finale de la plus belle des compétitions. Le capitaine du club, Brendan Chardonnay, nous révèle les secrets du Stade Brestois. Comment préparer les fruits de mer ou le poisson à quelques jours de Noël? Le chef Sylvain Roucarol publie Fiche cuisiner le poisson de Marseille à Tokyo. Il vous donnera ses petits conseils à quelques jours, quelques heures de Noël.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Les agressions sur les médecins ont augmenté de 23% en 2023. Le personnel de santé se retrouve de plus en plus démuni face à des agressions violentes. C'est ce qu'a vécu le docteur Mohamed Oulmeki. Ce médecin à Drancy a été victime d'une agression. Il témoigne sur RTL. Bonjour docteur Oulmeki.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter sur RTL ce qui vous est arrivé?
Oui, le lundi 25 novembre vers 16h, j'ai un patient que je connais depuis qu'il était tout jeune, qui est venu me voir pour me parler d'un problème que j'ai eu avec sa maman au sujet d'un remboursement de sécurité sociale, donc soi-disant qu'ils n'étaient pas remboursés. Donc je lui ai dit, écoutez, il y a du monde, on est lundi, revenez me voir quand on a fini, quand j'ai fini la consultation, le temps que j'ai de regarder un peu dans mon comptabilité pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Si j'ai été remboursé à tort, je vous rembourse. Et donc, il est rentré une première fois, il pensait que j'étais tout seul, et au fait, mon épouse qui est docteur Alouache, qui travaille dans le bureau d'à côté, était encore là. Quand il la voit, donc il était un petit peu surpris, il m'a dit, ok, je m'en vais. Donc il repart. Je reprends mes consultations. Une heure et demie après, j'ouvre pour prendre une personne. Il se met devant la porte, il pousse, il rentre au fait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On a déjà réglé ce problème tout à l'heure. Il me dit, non, je suis allé sur la sécu, j'ai déjà l'information. Regardez sur mon téléphone. Donc moi, je me suis pas du tout méfié. Je me suis approché pour regarder j'ai regardé l'écran du téléphone. Et là, il m'a mis un coup de tête sur le côté. Donc il m'a déplacé la cloison nasale de 6 mm. Donc avec une triple fracture ouverte du nez. Donc je saignais, je savais plus où j'étais. C'est les patientes qui étaient dans le cabinet qui ont appelé la police et les pompiers.
Aujourd'hui, dans Focus Dimanche, on vous reçoit. Les pommettes sont moins tuméfiées, mais le nez est toujours très gonflé. Vous avez toujours ce pansement sur le nez. Qu'est-ce que vous ressentez une quinzaine de jours après cette agression violente?
Déjà, j'ai une anosmie. Au fait, je ne sens pas les odeurs. J'ai pas de goût. Donc, j'ai appelé le collègue qui m'a opéré. Il m'a dit, écoute, il faut attendre un mois pour voir si après la résorption de l'œdème, ça revient. Il m'a dit, si c'est pas revenu, c'est qu'il y a une fracture du plancher, au fait, de la face, qui a sectionné le nerf olfactif. Donc, j'aurai plus d'odorat ni de goût jusqu'à la fin de mes jours.
Il vous a asséné un coup de tête?
Un coup de tête, oui.
Un coup de tête, comme ça?
Ouais. Pour faire mal. Avec un coup de tête, il m'a triple fracture du nez, je suis tombé par terre.
Mais est-ce qu'il vous a expliqué?
Il est revenu sur le problème que j'ai eu avec sa maman, en me disant j'ai pas été remboursé et tout ça. Il me dit, donc ma mère est une menteuse. Je lui dis non. Je lui dis, je vous soigne depuis 15 ans.
Vous soignez la mère depuis 15 ans?
Oui, les deux.
Et l'homme qui vous a agressé, vous le soignez depuis 15 ans?
Depuis qu'il avait 6 ans.
Aujourd'hui, il a donc 22 ans.
22 ans.
Et c'est lui qui vous a
agressé. Et c'est lui qui m'a mis le coup de tête. Donc c'est ça que je ne comprends pas.
Qu'est-ce que ça dit de notre société, docteur Oulmeki, et qu'est-ce que ça dit de l'évolution de votre travail?
Il y a une violence qui ça fait 27 ans que je travaille à Drancy. Je fais de la médecine générale. Sur les 26 dernières années, j'ai eu...
Drancy, c'est une ville de la banlieue nord.
De la banlieue, voilà.
De Paris.
Oui.
Dans le 93.
On est à...
Une ville assez calme.
Ah, c'est calme.
Entouré de la Courneuve et Saint-Denis.
Voilà, on n'est pas loin de l'hôpital Avicenne, pour situer un peu pour les gens. Je suis à moins d'un kilomètre de l'hôpital Avicenne, on est dans un secteur pavillonnaire. Cette violence, je vous dis, ça fait en 26 ans, j'ai eu deux altercations avec des patients qui se sont terminés de façon tout à fait normale. Et là, en une année, ça fait la cinquième agression. Les deux premières, on m'a craché à la figure. Une patiente, elle a failli me gifler, les gens se sont interposés. La cinquième, en une année. C'est fou, les gens deviennent fous, je sais pas. Nous, on est là pour les aider, on fait tout ce qu'on peut pour les aider. Et leur violence, c'est contre nous qu'elle se déchaîne. On est devenu un défouloir et le médecin est devenu un produit de consommation. C'est-à-dire, les gens, ils vont sur Internet, ils vous disent, voilà, j'ai vu ça, ça et ça, je viens, vous faites une IRM de ça, une échographie de ça, une échographie de ça. Je dis, mais celui qui a fait les études, c'est moi. c'est pas vous. On est les garants de remboursement, parce que sinon, qui décidons si ça justifie ou pas pour que la Sécu le prenne en charge. Mais il n'y a rien à faire. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils sont à deux doigts de vous taper dessus. Donc on essaie de désamorcer en expliquant, en disant c'est... Mais des fois, comme là, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Les rentrées, il m'a tapé dessus, je n'ai même pas eu le temps de voir venir.
Docteur Oulmeki, ce jeune homme de 22 ans qui vous a agressé est inconnu des services de police. Il a présenté ses excuses au procès. Est-ce que vous acceptez ces excuses?
Sincèrement, ça aurait été quelque chose de banal, une gifle et tout ça. J'aurais même pas.
C'est fou parce que vous rendez banal une agression quand même. Oui. Parce que une gifle, ça reste une agression.
Oui, mais si vous voulez, le degré de violence, ça aurait été ça. Cinq fois, j'ai pas porté plainte parce que, au fait, ça aurait servi à rien. On se serait retrouvé avec, au fait, au pire, un rappel à la loi ou, là, vraiment, j'ai une ITT. Donc, j'ai des séquelles qui vont être probablement définitives.
Ça fait 27 ans que vous êtes médecin. 27 ans. Vous expliquez aujourd'hui dans Focus Dimanche que vous avez vécu deux petites altercations en 27 ans. Et là, 5 en un an.
En un an.
5. Qu'est-ce qui vous donne envie encore de continuer à exercer le métier de docteur, de professionnel de santé?
C'est une très bonne question. Sur le coup, la première fois, j'avais dit que j'arrêtais. Mais sincèrement, le défilé de tous les patients qui passent, qui sont vraiment dans la galère, me disent « Docteur, si vous nous abandonnez, il n'y a personne qui va nous prendre. Il n'y a plus personne qui prend de nouveaux médecins. » Donc nous, on s'est dit, on est dans un secteur pour aider les gens. On est dans un secteur sans rendez-vous. J'ai toujours voulu travailler sans rendez-vous parce que, comme je l'ai toujours dit, la maladie ne vous donne pas rendez-vous. On est à côté d'un service des urgences d'Avicenne. Quand j'ai eu mon nez fracturé, on m'a emmené à Avicenne, j'ai attendu 2 heures. Et donc, pour éviter aux personnes d'attendre des heures aux urgences, on est à côté, on reçoit sans rendez-vous et tout. Et sincèrement, autant de violence contre nous, je ne comprends pas.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans votre cabinet, docteur Oulmeki? Est-ce que vous allez revenir?
Alors, pour le moment, j'ai une ITT de 15 jours. Je suis en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre.
Est-ce que vous avez envie de revenir?
Pour le moment, non, vraiment aucune envie. Je vais vraiment, à partir de janvier, reprendre. Mais si on reprend, ça sera sous une autre forme, avec une sécurisation et puis des rendez-vous. Donc,
je le disais en introduction, 23% d'augmentation des agressions sur les médecins en 2023. Vous avez eu des échanges avec certains de vos confrères? Concert.
Ouais, ça c'est sur cette année, sur les deux dernières années, c'est une augmentation de 50%. Et ce chiffre, et à mon avis, il est vraiment
minoré.
Moi, c'est minoré parce que j'ai porté plainte à la cinquième agression.
Ouais.
Dans mon malheur, je me dis finalement, je m'en sors pas trop mal. Il y aurait eu un couteau, il m'aurait mis un coup de couteau. Je serais pas là pour discuter avec vous. Malheureusement, c'est pas pour exagérer les choses, mais c'est la réalité. Il y a une agressivité qui est montée crescendo depuis après le Covid. Sincèrement,
le Covid a été une sorte de fracture.
Oui, et moi, dans ma réflexion personnelle, je m'étais dit, après le Covid, les gens vont se dire qu'on est peu de choses dans ce monde. Il va sortir ce qui est de meilleur en l'être humain. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit.
Et d'ailleurs, une dernière question, docteur Oulmeki. Est-ce que vous pensez que des jeunes, derrière vous, est-ce que vous discutez avec des jeunes, est-ce qu'ils ont envie de reprendre le flambeau?
Je vais vous raconter une petite histoire. Ma fille a fini a fait médecine. Elle a eu sa licence de remplacement, parce que je lui ai dit, prends ta licence de remplacement, de venir travailler avec nous, ça ferait plaisir et tout ça. Elle a eu sa licence de remplacement le lundi où je me suis fait agresser. Donc, pour le moment, elle est pas question, elle a pas envie de venir. Et qu'est-ce qui va se passer, nous, quand on va partir? On a à peu près, moi et mon épouse, un pool de patients de presque de 3500 personnes. La moyenne en
France... C'est énorme, 3500.
C'est énorme. La moyenne en médecine, en France et tout ça, elle est de 700, moins de 2000. Calculé. Et donc, on travaille à des heures pas possibles. On travaille, commence à 9h, c'est marqué jusqu'à 17h, mais au fait, à 17h, on enlève la liste. Et à 17h, quand je retire la liste, il y a 15-20 personnes qui sont dans la salle.
Merci à vous, docteur Oulmeki. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur RTL. J'ai presque envie de vous dire ce message que les auditeurs de Focus Dimanche doivent imaginer, penser aujourd'hui. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien pour tous vos patients. 3500 patients qui vous attendent au quotidien pour les accompagner dans leur vie. Merci à vous. Merci d'avoir témoigné sur RTL.
Merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de parler de ce problème.
Merci docteur Oulmeki. C'est une militante des droits de l'homme, une femme qui se bat depuis plusieurs années pour faire entendre la voix des femmes et des hommes de Syrie. Aujourd'hui, c'est une femme heureuse, heureuse de voir tomber le dictateur Bachar el-Assad. Bouchra Al-Zoubi, réfugiée syrienne en France, a accepté de se confier. Aujourd'hui sur RTL, elle est mon invitée dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
On en parle.
Vous projetez de poser des panneaux solaires chez vous pour produire votre propre électricité? On en parle avec Martin qui a fait appel à EDF Solutions Solaires. Bonjour.
Bonjour.
Alors Martin, expliquez-nous tout.
Je voulais faire des économies d'énergie et j'avais entendu parler d'EDF Solutions Solaires et de leurs panneaux solaires garantis à vie.
Ouais.
Du coup, j'ai demandé un bilan gratuit sur leur site.
D'accord, et ensuite?
Rapidement, un conseiller m'a contacté pour parler du projet.
Ouais.
Et il est venu évaluer mes besoins et m'a proposé une installation sur mesure.
Très bien, et pour la pose, ça s'est passé comment?
Ça s'est fait très facilement. EDF Solutions Solaires m'a accompagné dans les démarches et maintenant je produis ma propre électricité.
C'est formidable. Merci beaucoup Martin.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur edfsolutionssolaires.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Découvrez Patriote, l'autobiographie d'Alexeï Navalny, l'un des hommes les plus courageux de notre temps. Le leader de l'opposition russe qui a donné sa vie pour son pays livre son histoire. Un récit tour à tour fougueux, tragique, drôle et inspirant. Patriote, la dernière lettre au monde d'Alexeï Navalny aux éditions Robert Laffont.
Parlons prévention. Certaines personnes sont plus à risque d'être touchées par les virus de l'hiver comme la grippe et la Covid-19. Si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes atteint de pathologies chroniques telles que le diabète ou une maladie cardiaque, vous êtes éligible à la vaccination grippe et Covid-19. Parlez-en à votre professionnel de santé. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer. 13h, 14h,
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est la fin de près de 50 ans de dictature, de près de 24 ans de tyrannie de Bachar al-Assad. La Syrie s'est révoltée. La Syrie a fait tomber le dictateur Bachar el-Assad. On l'a vécu sur RTL ces derniers jours.
D'abord, l'une des images ce matin, la statue du père de Bachar al-Assad piétinée à Damas.
Allégorie de la chute d'un régime vieux de 50 ans, les rebelles syriens proclament la chute de Bachar al-Assad.
Au début, l'armée syrienne résistait, on a combattu. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approchait de Damas, on ne voyait plus personne.
Tous ces Syriens qui rentrent chez eux, ils nous disent que l'ambiance est beaucoup plus détendue qu'il y a plusieurs mois. Il y a des sourires sur certains visages. Il y a une sorte de libération qu'on perçoit sur les visages déjà.
On entend depuis quelques jours la libération des habitants de Syrie, la libération aussi de ces réfugiés politiques qui sont en France et de cette diaspora syrienne partout dans le monde. Ceux qui crient aujourd'hui pour exprimer le message « La Syrie est libre ». C'est le message aussi de Bouchra Al-Zoubi, militante des droits de l'homme, réfugiée en France. Elle est mon invitée aujourd'hui sur RTL. Bonjour Bouchra.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous ressentez depuis la chute de Bachar al-Assad?
Écoutez, ça fait déjà quelques jours, on était vraiment très contents, on voyait les scènes de liesse, tout le monde est sorti dans la rue pour célébrer en fait enfin la chute d'un dictateur de 54 ans qui nous a réprimés, qui nous a pas laissé vivre ou participer à la politique dans aucun moyen et qui a torturé, qui a fait disparaître des milliers, des millions de Syriens et qui a fait partir la moitié de la population de la Syrie, en interne mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, je suis toujours, bien sûr, très contente. Ça, pour moi, c'est indéniable. Mais aussi pleine d'appréhension et d'inquiétude pour la suite.
Oui, sur le futur pouvoir HTC, on va en parler dans quelques secondes, de ce nouveau dirigeant de la Syrie qui joue un peu l'homme clé, Monsieur Al-Joulani. On va en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, c'est la fin de 50 ans de pouvoir de la famille Al-Assad. C'est la fin d'une tyrannie, je le disais, de 24 ans de Bachar al-Assad. On a vu ces images, Bouchra Al-Zoubi, de la prison de Sadnaya. Cette fameuse prison, la prison de l'horreur comme on l'appelait, plus d'une trentaine de milliers de personnes seraient mortes dans cette prison depuis 2011, au minimum 30 000 personnes. Ils vous disent quoi, vos proches, vos amis en Syrie depuis quelques jours?
C'est très douloureux de le voir. Alors c'était très mélangé parce qu'il y a beaucoup de familles qui étaient torturées psychologiquement, c'est-à-dire Assad et son clan. Ils ont convaincu les gens qui sont leurs proches et leurs frères et sœurs et maris, ils étaient morts. On découvre aujourd'hui...
C'est-à-dire que les gens pensaient qu'ils étaient morts.
Qu'ils étaient morts. Parce que Assad, il nous a torturés, pas que physiquement, il nous a tués, mais aussi psychologiquement. Ouais. Il a aussi exploité les gens financièrement, c'est-à-dire, il a demandé aux gens beaucoup d'argent pour faire sortir leurs proches, alors qu'ils n'étaient même pas dans la prison dont elle parle. Mais...
Qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette prison de Sanaa, qui était la prison Bouchra Al-Zoubi, vous qui êtes militante pour les droits de l'homme, on dit que c'était la prison la plus redoutée. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on voit très bien les techniques de torture, mais aussi en fait Assad le père aussi. Hein, c'est pas nouveau pour la famille d'Assad. Hafez al-Assad et il y a la prison de Tadmoj qui existe à Homs dans le centre du pays où il a torturé et il a fait exactement les mêmes techniques de nazis dans le prison de Tadmoj pour ses opposants de après le massacre de Hamad dans les années 80. Et du coup, la lâcheté, c'est pas nouveau de ce gouvernement, de ce régime, ce type de 54 ans. Et du coup, c'était vraiment la torture, les techniques de recevoir les gens et de faire disparaître. Et en fait, aucune transparence, aucun procès, en fait. Tout était extrajudiciaire. On ne savait pas où allaient les gens. Et c'est juste aussi, il n'y avait pas des accusations légitimes aussi. Tout le monde, tous les opposants politiques, ça comprend. Les étudiants, les militants, les personnes normales aussi qui étaient aux prisons sans accusations légitimes.
Il y a une forme de libération aujourd'hui. Une libération de se dire on a mis fin au pouvoir de Bachar al-Assad. Le nombre de personnes en Syrie qui ont perdu un proche, un membre de leur famille, un frère, une sœur, à cause du pouvoir de Bachar al-Assad et à cause des milices de Bachar al-Assad, c'est fou, on découvre chaque jour des centaines de victimes au quotidien, Bouchra Al-Zoubi.
En fait, c'est pas une forme de libération, c'est la libération de la Syrie après 54 ans. Et quand les gens me demandent est-ce que vraiment ça, ce que vous voulez, oui, ce qu'on veut, on voudra, parce que oui, aujourd'hui, on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le gouvernement, mais c'est une période transitionnelle, on verra bien. C'est très triste parce qu'en fait, les gens ont beaucoup perdu, mais en même temps, l'Europe, l'Occident, ils ont sauté sur la première opportunité pour dire on va suspendre les demandes d'asile. En fait, c'est pas juste de faire ça parce qu'en fait, les gens, ils ont perdu leurs proches, mais pas que. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu le lien avec la Syrie depuis 2011. Et pour moi, c'est juste qu'on peut pas juste déshumaniser les Syriens et décider pour eux alors qu'ils souffrent toujours et ils ont subi des couches de déplacement depuis 2011.
Pourquoi vous avez quitté la Syrie? Et comment vous avez quitté la Syrie, Bouchra Al-Zoubi?
J'ai quitté la Syrie en 2012 avec ma famille à cause de bombardements, des frappes aériennes de la part de Assad, mais aussi on a fait l'objet de beaucoup de descentes de la part de militaires. Il y avait beaucoup de viols, il y avait beaucoup de craintes pour les femmes parce qu'en fait les hommes quittaient le village le moment de raid parce qu'en fait les hommes voulaient pas rejoindre l'armée syrienne, ils allaient être recrutés par l'armée et du coup c'était que les femmes et du coup il y avait beaucoup vraiment de craintes. Et à ce moment-là en 2012, mon frère a perdu sa voix parce que ne pouvait plus supporter la situation et ma mère elle a décidé de partir en Jordanie. On était accompagnés par l'armée syrienne libre jusqu'à la Jordanie à pied parce que moi je viens du sud où on est vraiment proche de la Jordanie. On est arrivé en Jordanie et on a demandé l'asile.
La frontière à pied.
Oui, on a traversé les frontières à pied.
C'est-à-dire qu'à tout moment, si à ce moment-là vous seriez tombé sur l'armée de Bachar al-Assad, vous risquez la même chose, de finir en prison à Sanaa comme tant d'autres.
En effet, ce qui s'est passé, en fait, en traversant la frontière, il y avait l'armée d'Assad qui nous a tiré dessous, en fait. Parce qu'ils surveillaient les frontières, ils ne voulaient pas que les gens partent pour ne pas exposer ces crimes à l'international.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, Bouchra Al-Zoubi?
Aujourd'hui, on a un gouvernement transitoire qui nous a un peu déçus parce qu'on ne voulait pas reproduire le même système d'Assad de choisir un clan pour diriger le pays, mais on a l'espoir que ça dure que 3 mois et après ce sera un processus plus politique, plus démocratique et inclusif.
Aujourd'hui, l'homme fort de la Syrie, il s'appelle Abu Mohammed al-Jolani, c'est le chef islamiste du mouvement HTC qui a pris le pouvoir en Syrie, qui a fait tomber Bachar al-Assad. On a vu la libération du peuple syrien, mais les doutes, les réticences que vous venez d'évoquer. En clair, certains disent on n'a pas quitté la peste pour le choléra.
Bien sûr, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, c'est pas que HTS, c'est pas que Abu Mohammed al-Jolani qui a appris Damas. Ça, c'est vraiment un discours qui occulte la souffrance et la révolution du peuple syrien, parce qu'en fait, les factions qui ont pris Damas, c'était pas que HTS. Il y a beaucoup de Syriens qui ont rejoint la révolution et les rebelles pour pouvoir se libérer d'Assad qui les a réprimés.
Est-ce que ces Syriens vont être entendus, Bouchra Azoubi, dans quelques semaines, dans quelques jours?
Je pense que les Syriens n'ont pas fait 14 ans de guerre. Ils n'ont pas tout perdu pour laisser passer un dictateur ou un autocrate facilement comme Assad a pu faire. Je pense que les Syriens, ils ont vraiment beaucoup de maturité politique aujourd'hui. On a aussi les compétences de la diaspora qui va pas laisser passer aussi. On a acquis beaucoup des atouts à l'étranger et on va tous et toutes s'investir pour avoir un pays civique avec une passation politique sans problème. Et aussi, on va essayer. Après, on peut pas garantir ça, mais en même temps, j'aime pas être sur la défensive par rapport au futur, parce que même dans les grandes démocraties, il y a des transitions politiques, on ne peut pas s'assurer de ce qui va se passer prochainement. Mais déjà, comme disait l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, pour le moment, on a des messages positifs.
Des messages positifs, inclusifs, que HTC voulait s'ouvrir sur le monde et discuter notamment avec les États-Unis et le monde occidental. Est-ce que vous y croyez, Bouchra Azoubi?
Moi, je ne peux pas savoir les intentions, les agendas sincères de Abou Mohamed Al-Jolani ou pas. Moi, je ne peux pas le garantir. Mais pour le moment, moi, je vois des bons signes. Elle n'a pas imposé le hijab. Elle promet
Imposé le voile.
Elle n'a pas,
en Iran.
Voilà. Et elle n'a pas. Pour le moment, on voit que elle essaye de protéger et garantir aux minorités religieuses. Et il n'y a pas. Pour le moment, il n'y a pas de vengeance.
Oui.
Et en fait, ce qui s'est passé aussi à Damas, c'était pacifique, dont on a rêvé. C'est-à-dire, la révolution syrienne, elle a commencé dans une manière pacifique, mais Assad, elle a renversé cette narrative et elle a commencé avec la répression et les militaires et les balles qui a tué les gens. Là, on est arrivé dans une manière très pacifiste, parce qu'on est très fatigué des atrocités dans le Moyen-Orient. Et c'était vraiment une belle façon de finir et d'aboutir le printemps arabe.
Merci à vous, Bouchra Azoubi. Merci d'avoir accepté de vous confier, de témoigner aujourd'hui sur RTL cette situation en Syrie. On va la suivre pour tout le peuple syrien. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. À bientôt sur RTL. C'est une petite révolution dans la vie des Français. C'est la fin du Dolirum ou encore de l'Actifed en vente libre. Tous ces médicaments qui vous soignent en cas de rhume, des médicaments dangereux pour la santé selon plusieurs médecins. Le docteur Jérôme Marty nous explique tous les dangers dans quelques secondes sur RTL. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
On en parle.
L'hiver est là. C'est le moment de parler consommation d'énergie et surtout faire des économies. On en parle avec Mélanie qui est conseillère EDF. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors comment EDF accompagne ses clients pour faire des économies d'énergie ?
En proposant un outil simple, l'appli EDF et moi.
L'appli EDF et moi. Alors expliquez-nous s'il vous plaît.
Oui, et bien cette appli vous permet notamment de programmer et piloter à distance vos équipements de chauffage électrique. Mmh. Vous pouvez par exemple mettre en place un planning quotidien de chauffage pièce par pièce. Ouais. Vous évitez ainsi de chauffer inutilement et vous restez surtout au chaud tout en faisant de vraies économies.
En effet, c'est très pratique. Et si nos auditeurs ont besoin de conseils supplémentaires, comment font-ils ?
Il suffit de contacter tout simplement les conseillers EDF disponibles pour vous apporter des solutions personnalisées en matière d'économie d'énergie. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'appli EDF et moi.
L'appli EDF et moi, c'est bien noté. Merci Mélanie.
Plus d'informations sur edf.fr/pilotage-chauffage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Découvrez une version féerique du Lac des Cygnes, ce ballet classique qui fascine les générations. Le Lac des Cygnes, actuellement en tournée dans toute la France et de retour au Casino de Paris pour 4 dates exceptionnelles du 20 au 23 février 2025.
On ne sait jamais quand on va se retrouver face à la grippe. Et on ne sait jamais non plus quand on va se retrouver face au Covid-19. Mais ce qui est certain, c'est que la grippe et le Covid-19 sont toujours là. Et qu'il faut se protéger contre les deux.
65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, ne choisissez pas. Faites-vous vacciner contre la grippe et contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
L'assurance maladie.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
C'est une petite révolution. Depuis cette semaine, il faut désormais une ordonnance pour se procurer les traitements contre le rhume, jusque-là en vente libre, mais sérieusement dans le pif des médecins et du gendarme du médicament qui avait obtenu déjà il y a quelques années l'interdiction d'en faire la publicité. Aujourd'hui, un risque est important sur ces médicaments contre le rhume et pour en parler, on accueille le docteur Jérôme Marty, président du syndicat Union Française pour une médecine libre. Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour.
Jérôme Marty, est-ce que je peux le dire, vous êtes en colère, vous les supportez pas? ces médicaments contre le rhume?
Ben, en colère, on est plutôt réjoui de la décision qui a été prise, puisque ça fait des années qu'on alerte là-dessus, sur ces médicaments qui n'ont pas grande efficacité et qui présentent des risques absolument non négligeables, certes rares, mais des risques graves pour une affection qui, elle, est fréquente, mais dont on guérit seul. Donc, le bénéfice risque est en faveur du risque et il fallait arrêter ces traitements.
Vous dites que c'est un bazooka, ces médicaments contre le rhume. Pourquoi c'est un bazooka?
Oui, parce qu'en quelque sorte, si vous voulez, c'est ouvrir à la possibilité d'un risque non négligeable comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Tout ça pour tuer une mouche qui est un rhume dont on guérit seul. On a pour habitude de dire pour le rhume que si on le traite, il dure 7 jours et si on ne le traite pas, il dure 7 jours. Donc, on voit clairement qu'on peut s'en débarrasser tout seul et ça ne sert à rien de prendre un risque.
Jérôme Marty, vous qui êtes le président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on utilise ces médicaments dans le corps? On appelle ça des vasoconstricteurs.
C'est ça. Ces médicaments sont des anti-inflammatoires, mais qui tiennent une molécule qui est de la pseudoéphédrine. Et la pseudoéphédrine est un vasoconstricteur puissant. Ce qui veut dire que quand vous allez le prendre, ça va vasoconstricter vos vaisseaux. Alors certes, au niveau du nez, c'est-à-dire que vous allez diminuer cette vasodilatation que vous avez dans le nez qui fait que vous avez classiquement le nez bouché, ce qui est désagréable, mais ça va jouer sur l'ensemble du corps. Or, si vous avez des artères qui sont un tant soit peu bouchées sans que vous le sachiez, par exemple des artères coronaires, qui sont les artères de votre myocarde, de votre cœur, vous pouvez avoir des plaques d'athérome, c'est-à-dire des plaques de graisse en quelque sorte, qui bouchent un peu ces artères, et quand vous allez vasoconstricter un peu plus, ben vous risquez de les boucher complètement et à ce moment-là de faire un infarctus. Alors certes, c'est rare, mais il y a quantité de gens qui ont comme ça des artères altérées et qui ne le savent pas. Et donc, ça peut créer ces chocs graves. Mmh. Et la même chose au niveau cérébral. Et à ce moment-là, faire un accident vasculaire cérébral. C'est pour ça que ces molécules doivent être uniquement sous prescription du médecin, afin que le médecin puisse conseiller le patient. Et le conseiller, c'est de ne pas le prendre.
Il y a eu 307 cas graves recensés en 6 ans sur 30 millions ou un peu plus de 30 millions de boîtes vendues. Ouais. Mais les conséquences peuvent être dramatiques, comme vous l'avez dit. Il y a eu 25 c'est AVC ça. En 6 ans, 5 décès. C'est-à-dire que 5 Français sur 30 millions de boîtes sont décédés d'avoir utilisé un Actifed ou un Dolirum. Il y a des Français qui peuvent se dire, mais nous, on est habitués au Dolirum, à l'Actifed, pourquoi nous le retirer?
Ouais, mais vous savez, vous pouvez faire un parallèle amusant avec les marques de voitures quand elles retirent ou quand elles rappellent leur voiture. Souvent, l'accident n'a même pas eu lieu, mais on s'aperçoit qu'un élément peut être défaillant et donc on rappelle 1 million de voitures au garage. Mais on va pas faire prendre des risques à nos patients sous prétexte que ce risque est rare. Il est certes rare, mais il peut être gravissime. Ouais. Et encore une fois, la balance bénéfice-risque est largement en faveur du risque parce ouais. que le bénéfice, lui, c'est un bénéfice qui est quasi anodin puisque
oui, surtout
la maladie est fréquente, mais on en guérit
une maladie
seul.
Qui se... Oui, c'est ce que vous venez de me faire une passe décisive magnifique, Jérôme Marty. En fait, le rhume, on en guérit seul. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 jours, il disparaît.
Il guérit seul, mais évidemment. C'est une infection virale, c'est du rhinovirus. Il y a des centaines de rhinovirus différents, mais leur expression est toujours la même. Hein. Vous savez, c'est les fameux yeux rouges, maux de gorge, les éternuements, l'écoulement nasal, les céphalées. Ça dure une semaine et puis au bout d'une semaine, ma foi, ça passe tout seul. Donc ouais. aller prendre des médicaments qui sont, je le rappelle, des anti-inflammatoires plus de la pseudoéphédrine. Classiquement, d'ailleurs, on ne donne pas d'anti-inflammatoires dans une infection parce qu'on va masquer en quelque sorte les symptômes de cette infection. Or, vous le savez comme moi, ça peut déboucher ensuite sur une bronchite qui, elle, avec une surinfection bactérienne, et il faut pas le masquer. Donc, ça sert à rien de prendre ces médicaments-là. Il vaut mieux s'hydrater beaucoup, humidifier un peu ce que l'on respire, et puis, ma foi, c'est certes un peu désagréable, et puis ça passe tout seul.
Et d'ailleurs, Jérôme Marty, c'est très important de le dire, et vous le faites aujourd'hui dans Focus Dimanche sur RTL, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Par exemple, on peut se dire, mais non, mais l'AVC, il va toucher les personnes de plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Non, ça a touché déjà des jeunes de 20, 25
mais évidemment,
ans.
Et puis, il faut rappeler que c'est pas dose dépendant.
Aucun antécédent médical.
Non, bien sûr. Et puis surtout, c'est pas dose dépendant. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça dès le premier comprimé. C'est absolument ni dose dépendante, ni durée dépendante. Donc, l'incident, quand il doit se produire, il peut se produire dès le début, dès la première prise. Donc, c'est en quelque sorte une roulette russe. Et on peut pas se permettre de faire jouer nos patients à la roulette russe.
Mais Jérôme Marty, je le disais en préambule, il faut désormais une ordonnance pour se procurer ces traitements. Mais pourquoi la France ou l'Union européenne n'interdit pas tout simplement ces traitements quand on vous entend?
Alors très simplement, parce que pour retirer un médicament du marché, c'est une décision européenne. C'est l'EMA qui prend cette décision. Et nous avons la chance en France d'avoir un ANSM, qui est l'agence de mise sur le marché du médicament, qui lui n'est pas atteint par les lobbies pharmaceutiques. Mmh. Or les lobbies pharmaceutiques jouent beaucoup plus au niveau européen, se protègent et essayent d'agir pour qu'on ne retire pas ces médicaments. En fait, ces médicaments, vous savez, ça fait des années que les médecins ne les prescrivent quasi plus.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est pour ça qu'on passe par la case médecin maintenant pour qu'on conseille les patients et qu'on leur évite de prendre ces médicaments qui peuvent être dangereux, certes dans de rares cas, mais de façon très grave.
Mais les médecins sont pas d'accord et veulent arrêter la prescription de ces médicaments. Ils en disent la même chose, les pharmaciens, Jérôme Marty?
Ben, leurs syndicats en disent la même chose, l'ordre des pharmaciens en dit la même chose, comme d'ailleurs les syndicats d'ORL et le collège de la médecine générale, mais force est de constater que dans les officines, on continue à laisser les patients acheter ces médicaments. Alors il y a eu une baisse et on est passé de 16 millions de boîtes à 4 millions de boîtes entre 2012 et 2018, mais c'est pas suffisant. Et donc il faut continuer à diminuer la prise de ces médicaments, et pour la diminuer, il faut passer par la case médecine.
Docteur Marty, il y a un autre sujet qui revient fort depuis quelques jours, c'est la vaccination. La vaccination contre la grippe et le Covid. Et en France, on ne se vaccine plus contre le Covid.
Et oui.
Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne croit plus à...
Il y a deux explications, à mon avis. La première explication, c'est une certaine lassitude par rapport à la vaccination, parce que la vaccination Covid a ça de particulier qu'il faut se vacciner plusieurs fois par an, au moins deux fois. Et ça fait maintenant 5 ans que ça dure, et donc ça fait un certain nombre de cycles vaccinaux, et les gens peuvent avoir une lassitude. Ensuite, il y a le fait que on croit à l'envie que cette pathologie est une pathologie bénigne, que c'est qu'un gros rhume, etc., etc., oubliant que cette pathologie peut être dangereuse pour des gens qui sont fragiles, c'est-à-dire des gens qui sont immunodéficients, âgés, polypathologiques, etc. Et surtout que cette maladie est extrêmement transmissible. Donc quand on l'a, on peut contaminer des gens fragiles. Et donc il faut diminuer, casser la circulation vaccinale et la circulation virale, pardon. Et le vaccin sert à ça. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a laissé par trop la voie à des cercles anti-vax qui ont mis dans la tête des gens que ce vaccin était extrêmement dangereux.
Vous-même, vous avez été menacé, Jérôme Marty.
Oui, moi j'ai été ça comme tous les médecins qui ont fait leur rôle de santé publique, qui ont défendu la vaccination, et on a eu des menaces de mort, on a été obligé de prendre un agent pour nous protéger en un temps, etc. Mais je crois que surtout on a laissé trop de place à l'anti-science. Il faut qu'on revienne à la science dans ce pays.
Jérôme Marty, aujourd'hui il y a des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Pourquoi c'est important d'aller se faire vacciner là contre la grippe? Parce qu'on en meurt encore, on croit que la grippe ça passe comme ça, etc. Mais on en meurt en France. On est à plus de 70% de vaccination contre la grippe et le Covid au Royaume-Uni, à 2 heures de chez nous, hein, en train, à 2 heures de chez nous. Pourquoi en France on atteint des chiffres qui sont ridicules, et pourquoi il faut aller se faire vacciner?
Ben, on peut parler de catastrophe vaccinale, hein, mais dans le sens de la non-prise vaccinale. C'est une catastrophe du non-vaccin que l'on va vivre, parce que vous pouvez étendre le raisonnement que vous faites sur la grippe et sur le Covid, malheureusement aussi, avec à la rougeole, au rayon, etc., puisqu'on a pas mal de parents maintenant qui ont des doutes quant à la vaccination de leurs enfants. Et ça, c'est gravissime. Il faut impérativement se vacciner pour casser la circulation virale. Il faut se vacciner parce que, vous l'avez dit, la grippe peut être une pathologie catastrophique chez les organismes fragilisés, notamment les patients âgés. Il y a chaque année entre 5000 et 15000 personnes qui meurent de la grippe. On a trop tendance à l'oublier.
Merci à vous, Jérôme Marty. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de Focus Dimanche aujourd'hui sur RTL. Merci de nous avoir donné ces conseils et ces recommandations. Tous, on peut le vaincre, ce rhume, sans ces vasoconstricteurs, et surtout passer plus rapidement à autre chose.
C'est ça, exactement. Pas la peine d'un bazooka pour écarter une mouche qui s'en va toute seule.
Merci à vous. À bientôt sur RTL, Jérôme Marty.
Allez, au revoir.
Tonnerre de Brest, c'est désormais l'expression sur toutes les lèvres sur la scène européenne. Le Stade brestois s'est imposé cette semaine contre le PSV Eindhoven en Champions League. Brest est 7e du classement de la Coupe d'Europe. Brest est qualifié pour les 16e de finale et peut même rêver des 8e de finale. Le capitaine du Stade brestois, Brendan Chardonnay, est mon invité dans quelques secondes sur RTL. Il nous raconte cette très belle histoire. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
Ça, c'est Raymond qui a chopé un vilain virus juste avant l'anniversaire de son petit-fils. Ça, c'est Raymond qui a pris des antibiotiques pour guérir plus vite de ce vilain virus. Et ça, c'est Raymond qui, ne va pas guérir plus vite parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les vilains virus.
Ah bah c'est dommage.
Eh oui, Raymond, mais vous fêterez ça la semaine prochaine. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Il y a 2000 ans, Pompéi disparaissait sous les cendres du Vésuve. Aujourd'hui, la cité renaît à Lyon. Plongez au cœur de cette catastrophe et découvrez aux côtés de ses habitants l'histoire fascinante de cette cité immortelle. L'exposition Pompéi, cité immortelle, actuellement à la Sucrière à Lyon. Réservez vite vos billets avec RTL.
Renew.
Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600 euros hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voire conditions sur fr.renew.auto.
Renew.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Quelle aventure pour le Stade Brestois. Brest est 7e en Champions League. Brest est devant le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, l'AC Milan ou encore Manchester City et surtout le Paris Saint-Germain. Brest nous a fait vibrer cette semaine et Brest est désormais qualifié pour le prochain tour de la Champions League. Les commentaires sur RTL de la Champions League, c'était avec Philippe Audouin. Une aventure dingue, c'est tonnerre de Brest.
Coup franc intéressant pour le Stade Brestois avec Camori Doumbia pour le frapper et le but. Le but Brestois.
On n'y croyait pas trop au départ et ils l'ont fait. Totalement inattendu avec un tout petit budget. On arrive à rivaliser avec les meilleurs d'Europe.
C'est fait, c'est terminé. La victoire du Stade Brestois. Ils sont incroyables ces Bretons.
Est-ce qu'ils sont vraiment incroyables ces Bretons? On va le demander directement au capitaine du Stade Brestois. Salut Brendan Chardonnay.
Salut, salut tout le monde.
Brendan, tellement heureux de te recevoir aujourd'hui sur RTL. C'est incroyable cette campagne européenne du Stade Brestois. Il faut se souvenir, cette semaine il y a eu la victoire face au PSV Eindhoven 1-0 et vous êtes 7e en Champions League. Vous êtes qualifié directement pour les barrages au minimum et vous avez même une chance de vous qualifier pour les 8e de finale. Est-ce que tu te souviens cet été de toutes ces personnes qui disaient mais Brest c'est une erreur en Champions League?
Oui, bien sûr qu'on s'en souvient. Bien sûr qu'on s'en souvient, même en fin de saison dernière, quand on était à deux doigts de se qualifier, de finir troisième. Bien sûr qu'il y avait des gens qui croyaient pas en nous, au club. Mais voilà, nous on a toujours dit que si on était là, on le méritait et on ferait le maximum dans cette compétition. Chose qu'on fait plutôt bien, on va dire.
C'est quoi le secret du Stade Brestois? Comment Brest peut aujourd'hui être 7e de la Champions League, se qualifier pour la phase à élimination directe? Qu'est-ce qui se trame dans ce vestiaire, toi qui es capitaine, Brendan?
Non, il y a pas beaucoup de secrets. Hein. C'est la continuité de la saison dernière où on donne tout. On est un groupe de 25 joueurs. Il n'y a pas forcément de joueurs qui sortent du lot. Voilà, on est 25-40 avec le staff à tout donner, à se dépouiller les uns pour les autres et ça marche. Donc non, il y a pas trop de secrets. Il y a beaucoup de travail par contre.
Cette équipe, c'est quoi sa force?
Sa force, c'est le caractère, je pense. Ouais. C'est le caractère, parce qu'on voit, on lâche rien, malgré des fois quelques tempêtes dans le match. On a vu contre le PSV, ils sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps, mais on a su tenir, garder le score. Donc je pense que c'est le caractère de ce groupe.
Hein. Aujourd'hui, Brendan, toute l'Europe parle du Stade Brestois. Est-ce que tu la ressens? Cette ambiance qui règne au sein du club et surtout ce changement de cap, cette vision qui a changé sur le Stade Brestois.
Oui, bien sûr qu'on le ressent. Bien sûr qu'on le ressent. Déjà en Ligue 1, on le ressent parce que c'est vrai que souvent le staff adverse, tout ça, nous disent qu'on les fait plaisir en Coupe d'Europe. Donc bien sûr que ça fait plaisir, mais on le sent. Il y a beaucoup plus d'attentes, de craintes aussi chez nos adversaires. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus compliqué en Ligue 1. Mais oui, bien sûr qu'au niveau médiatique, on sent l'engouement, on sent qu'il y a beaucoup plus de demandes, hein, ça c'est sûr.
Le capitaine dans ces cas-là, c'est toi, Brendan Chardonnay, défenseur robuste, mais surtout, Brendan, il y a des moments où il faut resserrer les liens et dire non, attention, c'est pas parce qu'on est en Tchapati qu'on doit oublier nos valeurs.
Oui, bien sûr. Alors la force aussi de ce groupe, c'est que pour l'instant ça n'arrive pas. Voilà, il y a personne qui s'enflamme, il y a personne qui commence à faire n'importe quoi. Non, on est focus, on avance doucement, mais plus discrètement maintenant dans cette compétition. Mais non, le groupe est focus. Il y a des joueurs d'expérience qui ont connu les coupes d'Europe aussi, donc ça nous aide. C'est eux aussi qui nous aident. Il y a tout le monde qui prend son rôle. Il y a pas que moi.
Et il y a surtout ce chambrage. Les supporters brestois, ils disent, nous, on est 7e de Champions League, le PSG est 25e.
Oui, bien sûr, c'est la phrase un peu bateau, mais c'est normal, ça reste gentil. Après, on peut pas comparer, c'est pas le même calendrier. Ça se trouve, si Paris avait notre calendrier, il serait mieux placé. Donc bien sûr,
vous avez quand même joué les plus grands clubs européens aussi, hein.
Oui, bien sûr, mais voilà, c'est le chambrage bon enfant des supporters. Il faut l'accepter. Hein.
Vous allez surtout jouer une grande équipe européenne dans quelques jours.
Oui, le Shakhtar, non?
Non, je parle pas du Shakhtar, je parle de qui?
Non, bien sûr, il y a le Real Madrid le dernier match, mais non, voilà, on n'y est pas encore. Il y a le Shakhtar avant, qui va être un match important. Mais oui, pour finir cette phase de poule, il y a le Real à domicile, à Guingamp, mais ouais, bien sûr que ça va être un immense match.
Brendan, quand on a 29 ans, quand on a seulement quelques matchs en Champions League et qu'on se dit on vit une aventure de dingue, parce que il y a une chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ton amour du maillot et surtout le fait que tu sois un très grand et un très bon défenseur et que t'aies vécu une aventure sur le tard avec le Stade Brestois, une aventure aujourd'hui qui t'emmène en Champions League. Quand on se dit dans quelques semaines on va jouer le Real Madrid, c'est un rêve, non? On revient le Brendan Chardonnay qui a démarré sa carrière de footballeur plus jeune.
Ouais, bien sûr que quand on retrace un peu le chemin où j'ai connu les années Ligue 2 avec le club, voilà, on allait jouer à Châteauroux, on allait jouer à Niort, on allait jouer à Tours. Donc bien sûr que quand on repense à ces années-là et voir où en est le club maintenant et moi-même sur le terrain avec, bien sûr que ça fait énormément plaisir. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de travail, donc c'est une immense fierté. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est pas l'heure des comptes. On va dire qu'il y a encore un peu de chemin avant de faire les comptes de la carrière.
Avant, on disait, on espère que le Stade Brestois ne finira pas 33e, 32e de cette Champions League. Aujourd'hui, le Stade Brestois est 7e. On se dit quoi? Qu'il faut finir dans les 8? C'est-à-dire qu'il faut aller en 8e de finale désormais?
Bien sûr qu'on a, on a l'ambition de gagner le plus de matchs possible. Donc on le sait, si on gagne contre le Shakhtar ou le Real Madrid, bien sûr qu'on aura, on aura potentiellement la chance de finir dans les 8 premiers. C'est une ambition, forcément. Maintenant, on verra bien. On sait qu'on est déjà normalement qualifié pour les barrages. Il faudra un scénario fou pour que ça soit pas le cas. Donc oui, bien sûr qu'on peut avoir, l'ambition de viser le plus haut. Hein.
Une dernière question. C'est incroyable de voir la ferveur, les émotions que nous donne Brest, mais c'est incroyable aussi de voir le lien que le Stade Brestois a créé désormais avec les Français. Les Français se sont attachés au Stade Brestois. Pourquoi, selon toi, Brendan?
Ouais, c'est vrai qu'on ressent cette ferveur, cette empathie, cette sympathie envers le club, parce que je pense que les Français aiment bien les histoires comme ça, où le petit affronte les gros et gagne en plus. Donc on le voit souvent quand il y a un parcours de Coupe de France d'un club amateur, toute la France aime bien se ranger du côté du petit. Donc c'est pour ça aussi, on essaye de procurer des émotions au public, aux supporters bien sûr de Brest, mais à toute la France. Et donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sympathie, et on le ressent quand on vient dans les médias nationaux, un peu comme toi, on le ressent forcément.
Les médias nationaux qui sont très fiers de te recevoir, Brendan. Merci de nous avoir donné tant d'émotions. Merci au Stade Brestois. Il y a un match contre le Shakhtar qu'il va falloir aller gagner. D'ailleurs, j'ai vu que les Tizef, le groupe de supporters, avait privatisé un avion, un jet privé pour aller à Gelsenkirchen en Allemagne pour aller se rendre au match. C'est,
ouais, vous passez, ouais, un cap, ouais, ouais, hein. C'est vrai, il y a pas mal de supporters qui font les déplacements en Coupe d'Europe. À Barcelone, il y en avait 3000, 4000. À Prague aussi, il y en avait énormément. Donc ouais, au Shakhtar. Alors c'est en Allemagne, mais voilà, ils veulent nous suivre. Pour eux, c'est des déplacements aussi qui n'ont pas l'habitude de faire. Donc ils sont vraiment présents. Et on les remercie pour ça.
Brendan, je sais que dans 7 jours, c'est ton anniversaire. Je te souhaite par avance une belle aventure qui ne s'arrête pas en 8e de finale en Champions League. Que vous soyez heureux et épanoui de vivre ce moment incroyable pour le football français. Merci beaucoup Brendan, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur RTL et bravo à toi en tant que capitaine et bravo à toute l'équipe. Je pense notamment au directeur sportif, directeur général, le patron du club Greg Lorenzi, je pense aussi à l'entraîneur Eric Roy. Vous transmettez en tout cas de très très belles valeurs pour le sport français. Merci beaucoup.
Eh ben merci beaucoup. Merci,
à bientôt sur RTL Brendan.
Salut.
C'est l'un des chefs de la nouvelle génération les plus célèbres. Sylvain Roucarol a fait le tour du monde pour révolutionner la cuisine autour des fruits de mer et du poisson et ça donne un magnifique livre qu'il vous présente dans un instant. On lui demandera aussi quelques petites recettes à quelques jours de Noël. A tout de suite sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Pour tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique, maladie cardiaque héréditaire, rendez-vous sur bms.com/fr et restez à l'écoute d'RTL.
RTL.
Ce soir dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions, la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
13h, 14h,
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Barcelone, Lisbonne, Marseille, Naples, San Francisco et Tokyo, civil portuaire et leur identité culinaire décryptée. C'est le livre parfait à offrir sous le sapin de Noël, pour les vacances de Noël, bien évidemment. Fiche cuisiner le poisson de Marseille à Tokyo. C'est le livre du chef Sylvain Roucarol et de Delaney Inamine qui partage dans cet ouvrage 60 recettes et autant d'adresses pour vivre et manger au bord des mers du monde. Ce guide, il vous emmène un peu partout dans le monde et je suis très fier de vous le partager avec son auteur, Sylvain Roucarol. Bonjour Sylvain.
Et bonjour Mohamed.
Ravi de vous recevoir aujourd'hui sur RTL. Sylvain, vous êtes le chef du Tuba, hôtel, restaurant à Marseille, l'un des endroits, comme on dit, the place to be, le meilleur endroit de Marseille, il faut le dire. Sylvain Roucarol, pourquoi avoir écrit sur le poisson qui revient à la mode?
Bah écoute, déjà, merci pour tes gentils mots. Pourquoi un livre autour du poisson? C'est déjà parce que c'est quand même la matière que l'on utilise, que l'on travaille le plus, que l'on cuisine le plus chez Tuba Club. À Marseille, évidemment, dû à la proximité de la mer, à la demande aussi, et parce que j'adore cuisiner le poisson également.
Ce livre, publié aux éditions Chêne, il nous fait voyager partout dans le monde. Barcelone, Lisbonne, Marseille, Naples, San Francisco, Tokyo, civil que vous avez découvert, Sylvain Roucarol, avec votre compagne de l'année, Inamine. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait que notre savoir-faire à la française est différent que le reste du monde?
Ouais, mais déjà par les produits qu'on y trouve. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a fait la Méditerranée avec Naples, Marseille et Barcelone. Donc, les produits sont différents, évidemment, qu'à Lisbonne, où on est sur l'océan Atlantique et San Francisco, évidemment, avec le Pacifique. Après, c'est les produits qu'on a trouvés, les produits qu'on a sourcés sur place, les gens qu'on a rencontrés, les influences, les restaurants où nous sommes allés manger, les producteurs que nous avons rencontrés, les pêcheurs que nous avons rencontrés. Tout ça, c'est différent, évidemment. C'est les produits avec le lien commun, le poisson, évidemment. Mais les produits sont différents en fonction des mers que nous avons visitées.
C'est un livre magnifique, vraiment. Il faut le retrouver sous le sapin. La couverture est bleue. On s'y sent bien dans ce livre de Sylvain Roucarol et de l'année Inamine. Chef Roucarol, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? 60 recettes, c'est ça?
Ah, 70. Alors, il y a une ville qu'on a fait en dernier, que les éditions Chêne nous ont dit, écoutez, le livre il est super, mais il faut rajouter une ville et c'est Tokyo. Et c'est aussi dû aux origines de l'année, dont le papa est japonais. Donc on a rajouté Tokyo au dernier moment, dernière minute. Donc ça fait au total 70 recettes, des condiments en plus aussi pour déguster le poisson, pour déguster le poisson en fin de livre. Et c'est un livre de voyage, c'est un city guide également. On donne des adresses où nous sommes allés. Donc, il y a une dizaine d'adresses par ville aussi. Et il y a évidemment beaucoup de photographies par de l'année, et aussi des petites cartes dessinées par de l'année où on voit, on se situe dans les villes où on peut se promener. Alors les premiers retours qu'on a eus, c'est en dehors d'un livre de recettes, c'est aussi un livre de voyage, et ça donne envie aux gens aussi d'aller dans ces villes ou d'y retourner.
C'est 336 pages de bonheur publiées aux éditions Chêne. C'est marrant de sortir un aussi beau livre, certes de voyage, mais de cuisine aussi, à quelques jours de Noël, un livre autour du poisson. On peut travailler le chef Sylvain Roucarol, on peut travailler le poisson à quelques jours de Noël ?
Non, on peut travailler le poisson à quelques jours de Noël, et j'ai envie de dire, c'est recommandé. On a les plateaux de fruits de mer, évidemment. On peut faire des poissons en croûte. C'est le moment où on a envie, voilà, d'ouvrir des huîtres, d'ouvrir des oursins, de manger les Saint-Jacques cette saison. Donc, évidemment, nous, on essaie de faire attention à la saisonnalité aussi. Donc, là, nous, en ce moment, chez Tuba Club, on travaille que des produits de saison et des produits locaux. Alors, je pense que partout où on est en France, on peut trouver le petit poissonnier qui nous fera découvrir les petits poissons. Mais je recommande en tout cas en cette période de l'année de manger du poisson, évidemment.
Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut manger un petit peu moins de viande pour le monde, pour l'écologie, pour aussi des raisons de santé. C'est quoi le menu parfait de Noël autour du poisson, autour de fish, comme le dit votre livre Sylvain Roucarol ?
Bah écoutez, moi j'adore les plateaux de fruits de mer, donc. Je mettrai quelques bulots sur un plateau, des huîtres, un petit peu de noix Saint-Jacques crues, taillées finement. Pourquoi pas quelques petits morceaux de bonites qu'on a en ce moment. Là, on a des très très belles bonites. Qu'est-ce qu'on reçoit aussi dans le coin Il y a des très beaux loups de mer ou des barres en Atlantique qu'on peut aussi tailler en carpaccio. Gratter un tout petit peu de poutargue par-dessus. Après, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est ça qui est chouette avec les plateaux de fruits de mer. Et après, pourquoi pas en plat principal, pourquoi pas se faire une belle pièce de turbo ou de Saint-Pierre. Qui sont actuellement de saison.
Ouais, c'est deux poissons de saison. Sylvain Roucarol, il faut évoluer quand on est chef désormais. Vous êtes un jeune chef désormais expérimenté, réputé. Est-ce qu'il faut évoluer avec son temps ? Est-ce qu'il y a les questions écologiques qui pèsent aujourd'hui dans les choix d'un chef ?
Ouais, je suis content que tu abordes le sujet parce que nous, bon, chez Tuba, on essaie de, tu connais, on essaie de faire très attention à ce qu'on fait. On fait la guerre au plastique, on soutient Clean My Calanque à Marseille qui fait un travail incroyable dans les calanques au Good, particulièrement autour de notre établissement. Évidemment, on essaie de travailler avec les pêcheurs locaux. On fait attention à ce qu'on achète. On fait vraiment attention à ça. Évidemment, il faut être de plus en plus vigilant. On a d'autres projets en route et que ça soit sur l'hôtellerie avec les clés vertes ou que ça soit dans les restaurants avec l'étoile verte, toutes ces choses-là, c'est plein de petites choses à mettre en place pour évidemment manger mieux et faire attention à notre environnement. Ouais.
C'est important, vos clients aujourd'hui, ils vous le disent, la question écologique, la question du bien manger et surtout de préserver la faune, la flore et le monde qui nous entoure.
Mais bien sûr, avant qu'on nous pose la question, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant aussi parce que c'est une histoire qu'on raconte, c'est une histoire de copains aussi parce que bien évidemment, on crée des liens avec nos pêcheurs. Pour nous, c'est hors de question évidemment de mettre du saumon à la carte chez Tuba Club, ça n'aurait aucun sens. Donc on est évidemment, on en parle avec les clients, on en parle avec les gens qu'on connaît. Et après, s'il y a des questions, il y a des gens qui sont rassurés, qu'on leur dise oui, en effet, on utilise des poissons du coin. Oui, en effet, c'est un poisson de saison. Oui, on fait attention à ce qu'on fait.
Un dernier mot sur cette ville magnifique. Un dernier mot quand même sur Marseille. C'est là où vous êtes le chef du Tuba Club. Cet endroit qui cartonne aujourd'hui et qui est l'un des endroits les plus réputés de Marseille, si ce n'est le plus réputé sur la restauration et l'hôtellerie. Sylvain Roucarol, aujourd'hui Marseille, vous l'avez remarqué, a changé. Le regard a changé sur cette ville et sur la cité phocéenne qui bénéficie de cette image de marque avec les plus grandes stars qui passent par Marseille désormais.
Oui, il y a de plus en plus de monde qui visite cette ville. Je pense qu'elle mérite cela. Je pense que ça fait maintenant quelques années, comme tu l'as énoncé, qu'il y a un petit boom sur cette ville. Les gens se rendent compte de la beauté de cette ville, de ce qu'elle a à offrir, de ce melting pot qui est incroyable. de ce mélange de culture, cette proximité avec la mer, ce climat qui est incroyable. Alors évidemment, ça devient de plus en plus attractif quand il y a des restos, il y a des nouveaux restaurants qui sont en train de se monter. Certainement que l'hôtellerie va un petit peu se développer aussi pour pouvoir accueillir tous ces gens-là. Mais nous, on est bien évidemment ravis. On est content aussi d'avoir des gens de l'étranger qui viennent visiter cette ville de plus en plus. Hein, on a de plus en plus d'étrangers, des gens qui viennent de loin aussi. Donc nous, on en profite, on est très content. Il faut quand même donner du crédit aux Marseillais qui sont partis, qui sont allés se nourrir d'expériences à l'étranger. Je parle notamment des associés, Grégory Gassa et Fabrice Denisot, qui sont partis travailler aux États-Unis, à Londres, à Paris, et qui sont revenus dans leur ville natale par manque ou par envie aussi de monter des nouveaux projets et d'embellir cette ville.
Ce livre, il est magnifique. Fiche, cuisine et le poisson de Marseille à Tokyo. Il est publié aux éditions Chêne. Près de 400 pages d'un coffee table book. Il y a plein de places à savourer. 70 recettes au total. C'est publié par le chef Sylvain Roucarol, l'un des désormais grands chefs de la New Generation et surtout un chef marseillais avec Delaine Imamine. Merci beaucoup, Imamine. Merci beaucoup, Sylvain Roucarol. Merci d'avoir accepté mon invitation sur RTL.
Merci, Mohamed.
À bientôt. À bientôt sur RTL. Et oui, c'est aussi ça Focus Dimanche, vous donner les meilleurs conseils pour préparer Noël, c'est pour bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité, tous les dimanches à 13h sur RTL. Tout de suite, vous retrouvez Arnaud Ducret et Tom Villa dans le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Chez Bosch, Noël, c'est jusqu'au 31.